Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Cette histoire débute le 21 avril 1901, en pleine nuit, dans le petit village de Corancèze, dans la Beauce. À cette heure-là, tout le monde dort, et depuis un bon moment. C'est qu'on se couche tôt, en 1901, à la campagne, parce qu'on se lève tôt, bien avant le soleil. Vers 3 heures du matin, ce sont d'abord les chiens qui se mettent à hurler. Et puis c'est un homme qui crie « À l'assassin ! À moi ! À l'assassin ! À moi !» Les cris viennent de la ferme des Brières. Et en ce temps-là, quand un voisin appelait à l'aide, on y allait. Et maintenant, on voit des lumières partout dans la nuit. Les voisins qui accourent, les bouvets et les barons notamment. Et quand ils arrivent chez les Brières, ils trouvent leur pauvre voisin, Édouard, allongé sur le dos, en plein milieu de la route, le visage et les vêtements couverts de sang. Mais le garçon n'est pas mort, et dans un râle, il dit « M'a attaqué ! M'a attaqué ! M'a attaqué !» Tandis que les barons vont chercher un docteur, les bouvets entrent dans la ferme à la lumière de leur lampe à pétrole. Ce qu'il découvre est une abomination. Dans la première chambre, sur un matelas, il y a deux enfants morts. Et sous un tas de linge, un troisième cadavre. Et c'est encore un gosse. Tous ont le crâne fracassé et il y a du sang partout. Mais c'est pas tout. Dans l'autre chambre, une gamine s'est vidée de son sang. Et coincée entre le lit et le mur, le cadavre du cinquième gamin de la famille. Cinq enfants massacrés. Il n'y a donc que le père qui a survécu, Édouard. Mais il est bien amoché. On le transporte à l'étable en attendant le docteur. Et voilà ce qu'il raconte. Ces deux brigands, ils m'ont frappé avec un couteau, ils m'ont frappé à la tempe, ils m'ont volé mon porte-monnaie. Et le voilà qui s'inquiète. C'est-il que les voleurs ont fureté dans la maison ? Il n'a pas l'air d'être au courant. Il n'a pas l'air de savoir pour les gamins. Flora, Béatrice, Laurent, Laure et Célina. Il n'a pas l'air de savoir puisqu'il vient de dire « J'irai me coucher dans mon lit quand les enfants seront partis à l'école. » Évidemment, à ce moment-là, personne n'ose lui dire la vérité. Il est blessé, il est affaibli, il sera toujours temps de lui dire plus tard. C'est qu'il n'a pas de chance, le pauvre Édouard. Sa femme est morte il y a 3 ans, et maintenant, c'est 5 gamins. Lui, qui s'en occupait si bien, en plus de la ferme. Un gars qui s'occupe si bien de ses enfants. On n'en trouve pas tous les jours. Et maintenant, il ne lui reste plus que l'aînée, Germaine, qui vit à Paris chez sa tante. Ah, le pauvre Édouard. Mais voilà le garde champêtre de Corancèze et derrière lui les gendarmes de la Bourdinière. Le jour se lève à peine et l'enquête qui commence va un peu remettre en cause le début de cette histoire telle que je viens de vous le raconter. Quand ils arrivent, les gendarmes font ce qu'on appelle les premières constatations. Ils notent sur leur calepin, trace de sang sur une pierre dans la cour. Une cravate en soie noire, déchirée. Une casquette sur un tas de fumier. Dans le hangar, le cadavre du chien, il a le crâne ouvert. Et puis dans un seau, de l'eau ensanglantée dans laquelle flottent des morceaux de cervelle. Et enfin, trace de pas fraîches, près de l'entrée du champ. Un médecin légiste, le docteur Dudefoy, vient autopsier les corps des cinq enfants. Ils ont tous été tués de la même façon. Ils ont été frappés par un objet lourd et contondant, au crâne et au visage. Des coups violents qui ont fait éclater la boîte crânienne. La mort a été immédiate. Pour autopsier le chien, on appelle même un vétérinaire. Le chien aussi est mort après des coups donné sur la tête. Et pendant ce temps, le père, Édouard, il est toujours dans le potage et on se demande même s'il va s'en remettre. Il a l'air salement amoché. Mais le voilà qui ouvre un œil et ses premiers mots sont pour dire « Et Flora, Flora, est-elle en train de traire les vaches ?» On ne peut plus reculer. Il faut lui dire que ses cinq enfants sont morts. Que c'est un carnage et c'est un gendarme qui va faire le sale boulot. Et l'autre se met à pleurer.
« Oh, ils sont morts, ils sont tous morts. Mon Dieu, c'est pas vrai. Dites que c'est pas vrai. Ils sont tous morts. »
Le docteur Dudefoy veut examiner ses blessures. Et pour le coup, c'est étrange. C'est très étrange. Elles n'ont rien à voir avec celles des enfants. Ce sont essentiellement des coups de couteau. Il y en a sur tout le côté gauche, de sa joue jusqu'à son avant-bras. Mais honnêtement, hein, ce ne sont que des égratignures. Ah, il a pris aussi un coup sur la tête, mais là aussi, hein, rien à voir. Pas de traumatisme, pas de fracture. C'est à peine s'il a un bleu. Puisqu'il ne va pas si mal, les gendarmes se disent qu'ils peuvent l'interroger tout de suite. Alors Édouard Brière se met à raconter. La veille au soir, il était allé boire quelques chopines au cabaret Saugé, le bar du village. Il est rentré vers minuit et demi. Et c'est au moment que j'arrive devant la porte, il y a un homme qui se dresse devant moi. J'ai senti qu'il me donnait un coup de couteau, alors j'ai saisi sa main. J'ai pas crié au secours, hein. Ça n'a pas duré longtemps. On a lutté, j'ai fini par avoir le dessus, je l'ai jeté par terre. Et là, j'ai reçu un coup de je sais pas quoi, sur la tempe gauche. Et à partir de ce moment-là, je me souviens plus de rien. Si c'est un voleur, voyons ce qui a disparu. Brière gardait ses papiers et son argent dans une commode. Dans le tiroir du haut, il y avait des livrets de caisse d'épargne et 800 francs. En billets, il n'y a plus rien. En revanche, ce qui est bizarre, c'est que dans le tiroir d'en dessous, il y avait 1580 francs. Ils y sont toujours. Et des actes notariés qui n'ont pas bougé. Dans le dernier tiroir, il n'y a que des papiers. Mais sur les papiers, un encrier cassé, qui a coulé. Ainsi donc, le voleur aurait tué 5 enfants pour 800 francs et des livrets de caisse d'épargne dont il n'est pas sûr de pouvoir se servir. C'est totalement disproportionné. Et donc c'est à peine croyable. Mais c'est pas impossible non plus. Il y a des fous, il y a des malheureux. Brière en a souvent employé à la ferme. Des vagabonds qu'il prenait à la journée. C'est une piste, ça. Tous ces garçons perdus qui vont de ferme en ferme. Le juge d'instruction en fait arrêter 50, dès le lendemain du meurtre. Tous les miséreux qui gravitent dans la région de Corrençaises sont interpellés pour interrogatoire. C'est qu'à l'époque, les vagabonds, c'est un peu comme les Roms d'aujourd'hui, hein, on leur met tout sur le dos. C'est évidemment plus simple que d'envisager une seconde qu'un père a pu tuer ses 5 enfants. Je m'emballe un peu, mais pas tant que ça. Et en attendant, Édouard Brière est conduit à l'hôpital de Chartres où il est placé en observation. Oui, en observation. Ça serait mentir de dire que depuis le début, les gendarmes ont totalement écarté l'hypothèse que le père serait l'assassin. Ça serait mentir, même si c'est jamais facile à envisager. 5 enfants massacrés à coups de... À coups de quoi, à propos ? Ferme de fond en comble, les gendarmes sous le lit de la petite Célina sont tombés sur une masse. Et sous un tas de fumier, un couteau et un gilet tachés de sang. Ils ont aussi retrouvé le porte-monnaie du père, Édouard, vide, dans le hangar. Et dans une charrette, un sac couvert de sang. Tout ça ne colle pas avec la piste du vagabond. Et oui, quand on n'est pas de là, on ne fait pas disparaître des pièces à conviction en les collant sous un tas de fumier sur les lieux du crime. On les emporte pour les cacher loin, là où personne ne les retrouvera. Et là, on nous les met sous le nez. C'est atypique. A les moustaches qui frétillent. Il ordonne qu'on ramène Édouard Brière à la ferme et qu'on lui colle sous le nez le couteau et le gilet taché de sang qu'on a planqué sous le tas de fumier. Ça n'a pas complètement l'effet escompté. Ce couteau-là, il ressemble au mien, mais c'est pas le mien. Je le connais pas. Et ça, c'est ben mon gilet. Mais je l'avais pas dimanche, hein. Il était pendu là depuis plusieurs jours. Je sais pas ben qui l'a mis sous le fumier. Et ça, les gendarmes lui présentent la masse retrouvée dans la chambre. Ça, c'est pas à moi, hein. Je savais pas qu'elle était là. J'en ai encore 2 là-bas. L'interrogatoire, en fait, ne fait pas beaucoup avancer l'enquête. En revanche, le juge est assez surpris par son attitude dans cette maison où tout de même ses 5 enfants ont été assassinés. Il n'est pas bouleversé. Oh, ça, il n'est pas bouleversé. Il entre sans problème dans toutes les chambres, qui gardent pourtant encore la trace du massacre. Il accepte même d'aller voir les corps des 5 petits qu'on a placés dans le fournil, à peine reconnaissables. Quand il en sort, il est un peu blanc, mais comment dire ? Pas assez blanc. Il ne pleure pas, il ne crie pas, il ne geint pas. Il est pâle, juste pâle. Après, vous direz, les réactions, ça dépend des gens. Mais le juge, lui, ça l'a marqué. Il n'est pas encore mûr, le juge, mais ça l'a marqué. Il manque de preuves. C'est tout. Le lendemain a lieu l'enterrement des 5 petits à l'église de Corrençaises, en présence tout de même de l'évêque de Chartres. Et tous les journaux ont envoyé des reporters de Paris et des photographes. Dans l'église, devant l'autel. les 5 petits cercueils, classés par taille. Du plus petit à la plus grande, Flora, qui jouait un peu les mamans auprès de ses 4 frères et sœurs. C'est sur son cercueil qu'on a mis le seul drap mortuaire dont dispose la paroisse. Sur les 4 autres, il n'y a que des draps blancs, couverts de gerbes et de couronnes. Tous les enfants du village sont habillés de blanc. Et sur le banc, au premier rang, à côté du père, la sœur aînée, la seule qui a échappé au carnage, en robe bleue et chapeau de crêpe, elle a tout perdu. Il ne lui reste que son père. Que son père. Et encore, pas pour longtemps. Édouard Brière est arrêté à la fin de la cérémonie. Et il est inculpé des 5 meurtres. Et dans la presse, c'est la sidération. Comme explication, on ne trouve pour l'instant que la folie. C'est la seule manière d'accepter l'impensable. La folie. Jusqu'à ce que le journal Le Temps balance ce gros titre à la une. Chercher la femme. Ça, c'est tout à fait dans l'esprit de l'époque. Il doit y avoir une femme derrière tout ça. Une femme qui lui a tourné la tête en 1901. On adore les crimes passionnels. Honnêtement, à ce stade, c'est pure spéculation. Hein. Rien n'indique qu'Édouard Brière soit autre chose qu'un veuf, travailleur, dévoué à ses enfants, jusqu'à ce coup de folie. Et encore, le coup de folie, pour l'instant, on est sûr de rien. Pour l'instant. Dans les semaines qui suivent le crime, le juge ordonne aux gendarmes de fouiller toute la ferme des Brières, y compris les champs. Et les gendarmes, évidemment, se font aider des gens du coin. Ça ressemble à une battue. On cherche tout ce qui pourrait ressembler à des indices. Et c'est payant. Depuis le premier jour, les gendarmes lorgnent sur un tas de terre le long du mur de la ferme en se disant « faudra creuser ». Eh bien, ils creusent et ils tombent sur un coutre de charrue. C'est une pièce métallique qui pèse 1,5 kg et dessus, il y a des traces de sang et des taches d'encre. Ça pourrait être l'arme du crime. L'objet a une partie tranchante. Et on voit pas bien qui d'autre que le père a pu le cacher là. Plus intéressant encore, à l'intérieur de la maison, près du lit du père, derrière une planche, on découvre des reçus d'emprunt. Et on apprend d'un coup qu'Édouard Brière, qui donnait à tout le village l'impression d'être à l'aise, avait des dettes, beaucoup de dettes. Alors il a emprunté 6600 francs, c'est beaucoup pour un agriculteur. Et c'est pas tout. En fouillant le mur d'enceinte de la ferme, entre les pierres du mur, sous une petite pierre blanche, on retrouve le portefeuille d'Édouard Brière glissé dans une enveloppe. À l'intérieur, 80 francs. Et sur l'enveloppe, une belle empreinte de doigt dessinée dans le sang. Si c'est son empreinte, il est cuit. Et en attendant, ça bouge du côté de la femme, figurez-vous. Ah, sur ce coup-là, la presse a eu le nez creux. À Courançaise, les langues se délient. Ça bavasse, ça caquette, ça cancane. Et maintenant que Brière est en prison, ben, il n'y a plus de raison de garder le secret. Alors oui, il y a une femme. Et un peu qu'il y a une femme. Et c'est pas d'hier. Et tout ça, le juge l'apprend par des courriers anonymes. Elle s'appelle Véronique. Véronique Lubin. Ça fait 4 ans qu'ils se connaissent. Et tous les éléments du scandale sont là. Elle a 25 ans. Il en a 42. Et c'est une sacrée jolie poulette. convoquée par le juge, elle tourne un peu autour du pot et puis elle lâche le morceau quand il la menace de la boucler, elle aussi. Bah oui, oui, j'ai des relations avec Édouard Brière. Bah ça fait 4 ans. Enfin, tantôt chez moi, tantôt chez lui, à peu près toutes les semaines. Hein. Mais jamais la nuit, hein. Le jour, quand les enfants sont à l'école. Et c'était du sérieux ou c'était une relation sans importance? Bah il a parlé mariage, une ou deux fois, comme ça. Et la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? La dernière fois, c'était quelques jours avant le crime, hein. Les enfants étaient à ramasser l'herbe. Et vous faisiez quoi quand vous étiez avec lui? Bah nous avions des relations complètes, quoi. Hein. J'aurais pu devenir enceinte, si vous voyez ce que je veux dire. Le juge se gratte la tête. 4 ans. Ça fait 4 ans qu'ils se connaissent, mais sa femme, elle est morte il y a 3 ans. Donc, ils se fréquentaient avant la mort de sa femme. Décidément, le veuf exemplaire perd chaque jour un peu plus de son aura. Cela dit, en quoi est-ce que ça fait avancer l'enquête, cette histoire de femme? Ben si, ça ouvre une piste, ça donne un mobile. Cette femme, il en est fou. Il veut la marier. Avec les enfants, c'est pas possible. Alors il les tue. C'est une piste. Une piste. À Courant 16, jusqu'aux obsèques des petits, et donc jusqu'à son arrestation après la cérémonie, tout le monde était avec Édouard. Un brave gars. Un gars courageux qui élevait ses 5 enfants tout seul. Il en avait bavé après la mort de sa femme. Tout le village avait pour lui de la compassion. Mais maintenant que les gens savent, pour la masse, le couteau, le coutre de charrue, tout ce qu'on a retrouvé chez lui, maintenant que tout le monde est au parfum des dettes qu'il avait, et maintenant que tout le monde sait pour la Véronique, cette catin, et lui qui trompait sa femme, ben ça change tout. On ne le plaint plus. Manquerait plus que ça, le salaud. Commérages du village font les choux gras de la presse et se fichent de la vérité. Le crime est si énorme qu'on peut tout dire. On disait qu'il était courageux. Et maintenant, c'est un hypocrite et un fourbe. Il était travailleur. Oh ben non, ça non, c'était un feignant. Et tant qu'à faire, il était alcoolique. Et ses dettes, c'est l'argent qu'il buvait au café. Ah, ses soucis d'argent, c'est qu'il dépensait tout au café, hein. Et le mobile? Chez les cancanières de Courant 16, il est tout trouvé. Les petits, depuis la mort de la mère, la moitié de la ferme était à eux. Ils les tuent, ils récupèrent l'autre moitié. C'est pas plus compliqué. Et après, ils pouvaient convoler avec la Véronique, hein, il était libre. Et elle était riche. En tout cas plus riche que lui, ça je peux vous le dire. L'appât du gain, le voilà le mobile dont tout le monde rêve. Et pour pimenter le tout, savez-vous ce qui se murmure à Courant 16? Édouard Brière lisait des récits criminels. Si, si, il s'intéressait au crime. Un peu comme vous, qui m'écoutez. Ou comme moi, qui vous raconte, entre nous. Faudrait pas qu'il se passe quelque chose dans notre entourage. On viendrait à nous soupçonner, vous et moi. Fermons la parenthèse. Tout ça pour dire qu'à Courant 16, on rêve d'une exécution publique sur la place du village. La guillotine à Courant 16. Même si lui, derrière les barreaux de la prison de Chartres, il continue de nier avec vigueur, il n'a pas tué ses enfants. Pour le procureur, en revanche, c'est un quintuple meurtre avec préméditation. Il n'a aucun doute. On a retrouvé les armes chez lui, et c'est lui qui les a cachées. Sa version de l'agression tient pas debout, ses blessures sont trop légères, il a donc fait semblant d'être assommé. Il a simulé. Et le mobile? Le mobile, il est financier. Il était très endetté, il n'y arrivait plus. Il a tué les gosses parce qu'il ne pouvait plus les assumer. Et sa maîtresse? Sa maîtresse, le procureur ne s'y intéresse pas beaucoup. Moins que la presse, en tout cas. Il en parle, mais pour lui, elle n'a pas joué un rôle clé. La clé, c'est lui, et lui tout seul. Lui et sa situation financière inextricable. Lui, sournois, orgueilleux et dur. Son procès est annoncé pour le 16 décembre 1901 à Chartres. Et si vous lisez les journaux, Il est condamné d'avance. Hein. 50 journalistes suivent le procès. Depuis l'affaire Dreyfus, 2 ans plus tôt, on n'a jamais vu ça. 6000 personnes ont envoyé des demandes pour assister au procès. Il n'y a que 300 places dans la grande salle du tribunal. Et d'entrée, le président n'y va pas de main morte avec Brière. Il lui renvoie toutes les incohérences de son récit de la nuit du meurtre. Il va même jusqu'à faire des sous-entendus sur les circonstances de la mort de sa femme. Ce dont jusqu'ici, entre nous, personne n'avait jamais parlé. Pour sa défense, Brière dit que tous les témoins à charge se sont fait monter la tête. Il est victime d'une conspiration, oui, une conspiration de ceux du village, qui tour à tour ont reconnu le couteau, ouais, c'est le sien, et la masse et le coutre de charrue. Ils font qu'à mentir, ils font qu'à mentir. Et puis à un moment, il décide de se murer dans le silence. « Vous ne parlez plus ?» lui demande le président. « Est-ce que c'est pas là une manière de reconnaître votre culpabilité ?»« Bah, vous parlez tout le temps. Je puis pas placer un mot. J'aime mieux pas répondre, hein. Voilà pourquoi je dis plus rien. » Tout l'accuse. On a retrouvé les armes du crime et des pièces à conviction partout dans sa ferme. Et lui a beau désigner 2 brigands, on ne lui a rien volé. Ou presque. Et puis on découvre qu'il a une maîtresse. Avant même la mort de sa femme, il avait une maîtresse. Et on échafaude le scénario selon lequel il aurait pu tuer sa femme et 1 an plus tard ses 5 enfants pour vivre tranquillement sa nouvelle idylle. Et sa maîtresse, justement, la voilà qui se présente à la barre. Dans l'imaginaire de beaucoup, puisqu'elle a 25 ans et lui 42, c'est forcément une vamp. Eh bien non, Véronique Lubin, c'est une petite paysanne un peu maigrichonne. La presse est très déçue. Quoi ? Ce serait donc pour devenir le mari de cette pauvre fille, petite, maigre, mal attifée et au teint hâlé, que Brière a tué ses 5 enfants ? À qui voudrait-on faire croire pareille fable ? La romance des journaux tombe à l'eau. C'est effectivement une petite campagnarde timide et a rien à tirer de cette gamine. Le président se tourne vers Brière. « Vous l'auriez épousée, vous, Véronique ?»« Ah ben non. Et d'abord, hein, je suis pas le seul qu'elle connaisse. » Autant vous dire que quand elle quitte la barre, Véronique est fumasse de passer pour une traînée. Le procès a duré 5 jours. Les jurés se retirent et rendent leur verdict. Le 23 décembre 1901, une soirée glaciale à Chartres, Édouard Brière est condamné à mort. C'est la guillotine qui l'attend. La cassation est refusée, l'exécution est programmée pour le 15 février 1902. Édouard, qui clame toujours son innocence, écrit une lettre au président de la République, Émile Loubet. Il sollicite sa grâce, 1 an de tergiversation. Et la grâce présidentielle lui est accordée. Le président s'est penché sur le dossier et il concède qu'il n'y a pas de preuve. Édouard Brière va donc passer le reste de sa vie en prison, ou plutôt à l'époque, au bagne. Il est d'abord placé à la prison de Fresnes, puis envoyé au pénitencier de l'île de Ré. Si vous y passez, allez voir, il y a un petit port devant l'entrée de la citadelle à Saint-Martin-de-Ré, qui est toujours une prison d'ailleurs aujourd'hui. De ce petit port, Édouard Brière embarque pour la Guyane et le bagne de Cayenne. Il y restera 7 ans avant d'y mourir. Ah oui, une dernière chose. Quelques mois après sa mort, un homme se présente à la gendarmerie de Tours. Il dit qu'il est l'assassin des enfants Brière. Évidemment, la machine médiatique s'emballe à nouveau. Et puis non, il se rétracte.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.